avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Et surtout avec Gilles Kepel qui est avec nous. Donc je parlais de son rôle comme enseignant donc à Normalsup, puisque vous dirigez donc la chaire, il faut lui donner son nom.
Oui, Moyen-Orient Méditerranée.
Et voilà, Moyen-Orient Méditerranée. Vous étiez hier dans la cour de la Sorbonne.
Oui.
C'est un moment qui a été particulièrement émouvant. Et la presse ce matin reprend un petit peu le célèbre, la célèbre phrase de Lénine, mais adaptée à la situation aujourd'hui. Que faire ? Alors, un mot sur la cérémonie d'hier, parce qu'elle était importante. Elle était importante, notamment à l'égard du monde enseignant, à travers Samuel Paty.
Oui, tout à fait. Le président de la République l'a plusieurs fois apostrophé par son prénom, mais aussi en l'appelant toujours professeur. Et je crois que c'était très important parce que c'était une manière aussi de s'adresser à ce monde enseignant qui porte, notamment en collège et en lycée, le poids de la confrontation avec l'islamisme radical et avec une vision du monde qui est construite à travers un certain nombre de prêches, de salles de sport, de réseaux islamistes et surtout l'immense univers du web djihadiste ou de la djihadosphère où va tout et n'importe quoi et qui a joué un rôle crucial dans le passage de la dénonciation mensongère du part d'élèves jusqu'à au geste de l'assassin et qui sont confrontés à ce phénomène alors que justement un ami de la victime a commencé par lire un texte de Jaurès aux enseignants. Et on voit le gouffre qu'il y a entre l'époque de la lecture de ce texte et l'époque contemporaine, où l'instituteur ou le professeur en fait, s'adresse à des jeunes gens, à l'époque, qui, au fond, sont d'une certaine manière vierges par rapport à la culture qu'ils vont acquérir et qui ont soif d'apprendre. Alors que là, vous avez un certain nombre de groupes qui arrive au collège déjà tout armé contre celui-ci. C'est un petit peu... Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est que le président, on en avait parlé déjà récemment ensemble, a donc réfléchi autour de son discours au Mureaux le 2 octobre à ce projet de loi sur le séparatisme. Et en fait...
Qui va durcir, visiblement.
Voilà. Et le séparatisme, pour les arabisants, c'est quelque chose qui fait un écho tout à fait particulier, puisque... c'est, d'une certaine manière, le maître mot de la doctrine salafiste reprise aujourd'hui par les frères musulmans radicalisés, par les djihadistes, qui, en arabe, excusez-nous, on va faire un peu de cours d'arabe, puisque moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut connaître l'arabe, pas pour tout le monde peut-être, mais enfin en tout cas c'est important de connaître les langues, qui s'appelle en arabe « el-wala ou el-bara'a ». Ça veut dire « el-wala », ça veut dire l'allégeance totale et exclusive à la religion dans sa dimension la plus dogmatique et la plus acritique. El bara'a, ça veut dire se libérer d'eux, ou en dialecte de banlieue, ça veut dire se désavouer d'avec, une forme un peu bizarre, c'est-à-dire on rompt complètement avec les lois, avec les logiques de la société des infidèles, des impies, etc. Alors c'est à la fois un objectif de purification de la communauté imaginaire, c'est-à-dire que on élimine tous les, entre guillemets, mauvais musulmans, collabos, c'est-à-dire les apostats, mortadines en arabe, les hérétiques, les associationnistes, mouchrikines. Et puis, on distingue le reste du monde comme entre les bons croyants d'un côté et les kofars, c'est-à-dire les infidèles.
Et vous rendez compte des problèmes.
Qui doivent être exécutés. Et mais ça, si vous voulez, je termine une seconde.
Je vous en prie.
C'est ça qui est dans la tête d'un certain nombre de gosses qui arrivent en classe, si vous voulez, et qui donc, pour lesquels l'école n'est pas le lieu d'apprentissage, mais c'est l'expression de l'infidélité, etc., qu'il faut subvertir.
Et c'est là, pour ça que, par exemple, vous avez des enfants jeunes qui arrivent en classe et qui se bouchent les oreilles, qui n'arrivent pas à entendre de musique.
Par exemple, il y a ça, oui.
Donc, c'est pour ça, par exemple, que je vois qu'au Muret, en Haute-Garonne, 7 mineurs ont été placés en garde à vue après des menaces contre une enseignante pour ses propos sur le voile islamique. C'était une semaine avant, car il faut bien le dire, le fait que Samuel Paty ait été décapité. Donc, cette épreuve qu'a évoquée Emmanuel Macron et que vous évoquez, par rapport à ce milieu que vous venez d'évoquer et de définir, fort justement, cette épreuve, elle va se reproduire demain, après-demain, après-après-demain, et c'est pas cette mise en examen ou l'interdiction du CCIF qui va régler ce problème-là, si ça concerne un nombre considérable de musulmans.
Alors, y a
combien
deux...
sont-ils, ceux qui sont sur cette ligne-là ?
Probablement quelques milliers, c'est difficile à dire, mais avec un rôle extrêmement important comme de diffusion et de prosélytisme. Ce qui est important quand même, c'est que ces mesures ne sont pas simplement des mesures symboliques au sens très superficiel, parce que il y a une véritable mobilisation de l'État et l'objectif, je crois, de la législation, c'est qu'il y ait aussi une mobilisation de la société, une prise de conscience. Et surtout, les enseignants, il faut bien le reconnaître, je parle surtout pour les collègues qui sont en collège ou en lycée, ont le sentiment d'avoir été un peu les laissés pour compte de l'évolution du monde moderne, si vous voulez, leur salaire stagne, leurs conditions de vie. Un certain nombre d'entre eux sont en train, n'ayons pas peur du mot, d'être prolétarisés.
Mais c'est ce qu'on a connu pendant l'épisode aussi tragique qu'on connaît encore du Covid, avec justement les soignants. C'est-à-dire qu'on voit que deux des piliers de la République aujourd'hui, les soignants d'un côté et les enseignants de l'autre, sont dans un moment de crise qui devient terrifiant pour la société.
Tout à fait, et donc ce sont, si j'ose dire, les premiers de corvée, quoi, selon l'expression qui a été utilisée. Et il est très important, alors bien sûr, d'abord de la société tout entière et les institutions qui la représentent, l'État et son président, en premier lieu, les revalorisent explicitement, y compris dans le discours. Après, ça passe aussi par des transformations du métier. Mais ça fait partie des défis énormes que nous pose par ailleurs le virus. Parce que c'est la déréliction de nos sociétés, la déréliction de notre environnement aussi. Ça va vous sembler bizarre, mais la présidentielle américaine, imaginez que Trump soit réélu, ce qui n'est pas impossible, va se traduire par un relâchement complet de tout le système d'alliance qui s'est mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, avec des gens qui décident d'en profiter, par exemple comme Erdogan aujourd'hui, qui pousse son avantage partout, un peu à la manière de certains leaders autoritaires de l'entre-deux-guerres. Et on voit bien que les certitudes, ce qu'on tenait pour acquis, qui permettait d'avancer sans se préoccuper de ça, de consacrer un trop gros budget à la défense, etc., tout ça est en train d'être profondément bouleversé. Et l'irruption, paradoxalement, du Covid-19 et du salafisme radicalisé participe du même phénomène.
D'une déstabilisation. On est dans une société qui est au bord de la dislocation pour des raisons diverses qui convergent à un moment. Et ce moment, pour nous, c'est le quinquennat du président de la République, ce qui ne veut pas dire qu'il en est le responsable, mais ce moment correspond aux décisions qu'il doit prendre. Vous disiez qu'il faut qu'il y ait une responsabilisation de la société. Mais je vais vous donner un exemple concret. Est-ce qu'on sait, par exemple, combien il y a de mosquées qui sont en France aux mains des salafistes et des frères musulmans, et est-ce qu'il faut les fermer toutes? Est-ce que ça sera accepté par la communauté musulmane?
Si c'est prononcé comme tel, non, bien sûr. Il y a quand même une loi en France, il y a des lois, et qu'il faut respecter. Donc, si on décide de fermer un lieu de culte ou autre, ou de suspendre l'un d'eux, comme ça a été le cas pour la mosquée de Pantin, il faut qu'il y ait un argumentaire juridique à ce propos. Il y a un acte.
Mais si c'est simplement idéologique, Gilles Kepel, on ne va jamais prouver qu'une mosquée est salafiste ou une mosquée dirigée par les frères musulmans est directement responsable du meurtre de Samuel Paty. Mais par contre, les prêches qui y sont tenus peuvent être considérés comme idéologiquement responsables.
Oui, mais ça, c'est la raison pour laquelle les choses sont faites. Vous avez, dans la mosquée de Pantin, par exemple, vous avez des sermons extrêmement durs qui ont été tenus par un imam qui lui-même a été formé dans la medressa de Damaj au Yémen du Nord, qui n'existe plus aujourd'hui parce que les Houthis l'ont détruite, qui était le centre du salafisme qui est venu ensuite en France, qui d'ailleurs passent leur temps sur le web à accuser toutes sortes de gens. Votre serviteur est régulièrement insulté, menacé dessus, par exemple. Et là, vous avez des éléments qui permettent justement l'incrimination, la criminalisation. Il y a quelques années, quand j'avais fait remarquer aux autorités que moi-même et mes collègues étions régulièrement traînés dans la boue, désignés à la vindicte, photographiés avec nos yeux noircis comme si on avait mis un bandeau pour l'exécution, on disait, ils aboient mais ils ne mordent pas. Aujourd'hui, si vous voulez, on prend conscience que c'est quand même plus compliqué, et le projet de loi sur le séparatisme part de cette logique. On sait ce que c'est que l'attentat djihadiste, si vous voulez. Aujourd'hui, les services de renseignement, après beaucoup d'atermoiements et d'erreurs, maintenant, on a une assez bonne maîtrise du phénomène, autant que je puisse le comprendre. En revanche, c'est tout le processus qui est en amont et auquel on veut s'attaquer. Et là, on en a eu, paradoxalement, juste après les propos sur le séparatisme du président le 2 octobre aux Mureaux. Hein. Je rappelle que les Mureaux, c'est le lieu où se trouve le commissariat dont était un employé, un agent, Jean-Baptiste Salvin, le policier qui a été poignardé à Magnanville avec son épouse. Donc, c'est paradoxalement, au moment où le président parle de cette affaire de séparatisme, on en a d'une certaine manière l'illustration avec l'affaire de Conflans, où on a tout le processus. D'habitude, on a un attentat. Et puis, on essaie de remonter. Là, on a tout le processus. On a ce père dont la sœur est partie à l'État islamique, dont on découvre aujourd'hui que...
Donc c'est tout ça qui doit être pénalisé à un moment ou à un autre.
Voilà, mais ça implique quoi, Guillaume Durand ? Ça implique justement un processus législatif de transformation. Ce ne sont pas des décrets. Et je l'ai comparé dans un papier que j'ai fait paraître là, il y a deux jours dans Le Monde, sur la situation de 1989 avec l'affaire de Creil, si vous voulez. Qui, 89, c'est une année très importante. C'est l'année de la fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie, qui, en condamnant à mort, au nom de l'islam tel qu'il interprétait, un individu qui est citoyen britannique, étend d'une certaine manière, entre guillemets, le domaine de l'islam au monde entier. Donc, quelqu'un qui blasphème, entre guillemets, le prophète à Londres, doit pouvoir être condamné à mort. La même année, donc là, vous avez déjà cette notion de blasphème, et tout le reste va procéder de cette histoire, c'est le moment fondateur. La même année, vous avez les frères musulmans, ici, leur branche, qui appellent ça l'Union Jaristan Islamiste de France. Ils veulent dire quoi ? Quand on est musulman, on a le droit de pouvoir appliquer la charia à titre personnel. Ça va être le port du voile à l'école, et ce sera le début du conflit. Pendant 15 ans, les proviseurs, les directeurs d'école, etc., ont passé leur temps au tribunal administratif, au Conseil d'État, parce qu'il y a des provocations montées par l'association, jusqu'à ce que finalement, à la suite des travaux de la commission Stasi, dont votre serviteur était membre, il y a eu la loi du 15 mars 2004 qui a permis de remettre la paix dans les écoles, et les filles voilées, ben, elles ont enlevé leur voile à l'entrée, etc. Et on a pu travailler. On est dans la même situation, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait aujourd'hui un travail législatif, et un travail législatif qui fasse consensus autant que possible dans la société, en n'excluant pas, si vous voulez, et c'est le danger aujourd'hui, évidemment, c'est la contre-offensive que lancent les gens du CCIF, toute la mouvance islamo-gauchiste qui les soutient, etc., qui dit que c'est la stigmatisation, c'est la guerre civile, etc. Non, il ne s'agit absolument pas de stigmatiser nos compatriotes musulmans, au contraire, il s'agit de les protéger contre les ferments de dissidence et de séparatisme, justement, que veulent manifester ceux qui ont comme souci de les prendre en otage. Et ça, il y a un gros travail d'explication à faire là-dessus. Bon, je comprends que le gouvernement, dans l'urgence, essaie de rassurer, mais il faut aussi agir sur ce point. C'est aussi à ça que servent les études arabes, la connaissance de ce qui se passe dans cet univers, parce qu'on a pris tellement de retard dans ce domaine-là que, d'une certaine manière, on se retrouve assez désemparé face aux dynamiques qui agitent ce milieu.
Voilà, ça pose des problèmes législatifs. La loi donc va tomber au Conseil des ministres, celle dont vous venez de parler, donc avant la fin de l'année, elle sera discutée au Parlement. Donc, au premier trimestre de l'année prochaine, ça pose aussi, vous parliez d'Erdogan, des problèmes géopolitiques. C'est une conversation qui pourrait être passionnante, puisque, et elle l'est d'ailleurs, hier par exemple, l'imam Cheikhloumi parlait de la nécessité d'une grande manif des musulmans de France qui permettrait de condamner ceux que vous avez définis et qui essaient justement via les réseaux sociaux à chaque fois de prendre d'une certaine manière le pouvoir sur la République. Merci d'être venu ce matin à notre antenne, Gilles Kepel.
Merci de votre invitation.
Nous avons rendez-vous avec le rappel des principales informations. C'est Lucille Bréau qui va en être chargée.